jour où on m'a dit va falloir faire tout seul, j'ai d'abord fait la gueule, puis j'ai ri de ma gueule.
Bonsoir. Je suis en train de diffuser en plus en même temps. Ça va, Imaginaire ?
Ouais.
Ça va très bien.
C'est notre 200e émission.
Eh oui, tu te rends compte, 200.
Et du coup, qu'est-ce qu'on vous a préparé pour ce soir ? Rien de spécial.
Eh ben, moi, tu sais que je réfléchissais.
Déjà, t'es là ?
Mmh. Oui, parce que j'étais là à la première, toi aussi.
Ah ouais, c'est vrai.
Et en fait, il y avait avec nous Article Unbekannt.
Voilà. Qui poursuit sa carrière d'éditeur, on va dire, hein, pour Rivière Blanche.
Julien Calderoni.
Ouais, il s'appelait Julien Elbrock à l'époque.
Absolument. Mm. Et Justin Hurle.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais. J'avais quand même un foutu plateau, j'ai dit.
Ouais, il n'y avait pas Martine aussi.
Elle était sur la première.
Ah ouais, d'accord, ok.
Non,
tu as réécouté la première émission.
Non, je ne l'ai pas réécouté, mais je m'en souviens très très bien parce qu'on avait dit bon, bah, président présente l'association. Donc j'avais présenté l'association, ça avait pris 6-7 minutes. Hum. Et puis après, on avait dit on va parler du Chrony. Alors qui c'est qui parle du Chrony? Et là, un silence total. Personne
n'a quoi.
Et donc, du coup, j'ai repris la parole pendant cette. Il n'y a que moi qui causais. Bon, après, ça a bien changé. Hein. C'est vrai que ce soit Julien ou Antoine, c'est quand même des brutes à la radio. Ils étaient très, très forts. Et particulièrement érudits, qui plus est.
Et effectivement, c'était une émission, c'était une idée de Julien. Je ne sais pas, moi, je n'étais pas dans l'association Imaginaire à l'époque.
Alors, en fait, ce n'est pas une idée de Julien. En fait, tu avais une émission à l'époque et tu étais passé à Fesneau.
Oui, c'est vrai.
Où tu étais un client bien aimé.
Ouais.
Et t'avais expliqué que t'étais triste, tu cherchais des animateurs pour ton émission, mais que t'en avais pas. Et c'est là que.
C'est pas vrai.
Comment?
Non, bah non. J'avais dit ça, moi.
Ah ouais,
j'espère qu'ils sont pas en train de m'écouter.
T'en avais perdu un ou
oui,
deux.
Oui, on en perdait en chemin, c'est vrai. Ouais. Et donc,
on avait un petit peu discuté, puis l'idée était née de là. Donc, on avait interrogé quelques... Ben, Julien...
Ouais, en fait, je pensais à Julien, parce que lui, il avait une émission avant à La Rochelle, je crois, où il passait du garage punk.
Ouais. Oui, c'est tout à fait possible, parce qu'effectivement, il était extrêmement à l'aise. Mais Antoine aussi, tout le monde paraissait avoir fait de la radio. C'était magnifique.
Ouais, ben, je pensais à Martine, mais c'est vrai qu'elle écrivait déjà ses chroniques, ses petites fiches célèbres, là, à la librairie Contact, au rayon Polar, là, qui est géré, avec brio. Et oui, elle nous faisait des belles chroniques. Alors après, on en a eu d'autres, hein, mais je vais pas les citer, parce que je risque d'en oublier. Mais j'aurais dû reprendre tout ça. Parce que c'est notre 11e saison, quand même, là, à Imaginaire. Tiens, voilà, Pierre-Marie.
Ah,
ben, il est dehors. Bon, alors Sébastien, de quoi tu vas nous parler ? Tu as ramené des magazines, toi.
Moi, je vais parler de revues dont vous êtes le héros.
Ok, du récent et du moins récent. Hein.
Plus du récent que du moins récent.
Tu vois le visuel, là.
Jacques, il a failli travailler pour Piranha.
Ah.
Jacques Pinbois, ouais.
Ok. Donc, vous pouvez suivre un peu les aventures racontées par Jean-Hugues. Bah non, Pierre-Marie, t'as pas de micro, donc dis-moi, c'est force, tu es force blanche.
Exactement. Ah bah alors, voilà, en fait, je voulais juste faire une petite vanne sans conséquence en demandant, mais dans quoi est-ce que Jacques n'a pas failli travailler
en fait. Il a été gardien de zoo.
Ah ouais.
Ouais, au musée de la Porte Dorée.
Ah, c'est comme ça que vous vous êtes rencontrés. T'étais derrière les cages.
C'est comme ça que tu es né.
Ah oui, pardon, excuse-moi.
Ah, vous
il a été
forme.
Ambulancier, il a été incroyable.
Je dois avouer à mes auditeurs
avoue-le dans le micro
que je suis en retard parce que je suis resté sur le cul quand j'ai appris
j'étais resté sur le quai, moi.
il y a quelques minutes, quelques demi-heures, qu'on avait un vieux dinosaure qui nous venait directement du cétacé. On ne l'avait pas revu depuis son hibernation.
Non, Tyrannosaurus imperium ne sera pas là avant un petit moment. Il m'a expliqué qu'il sortait d'hibernation lentement.
Voilà. Oui, ça, d'accord. Mais toi, t'es bien là.
Oui, mais j'ai pas.
On a réussi à te ressusciter. C'est Frankenstein a fait des miracles.
Un vieillard, peut-être, mais un dinosaure.
C'est oui, pas d'ailleurs ton... sa première chronique de l'année, quand même.
Ton déambulateur m'a un peu gêné pour me guérir.
Karine, tu vas nous parler de quoi?
Le vol du boomerang de Laurent Well aux éditions Au Diable Vauvert.
Ah bah très bien, ça c'est quelqu'un qu'on va recevoir au prochain salon imaginaire, non?
Pas envie.
Ah bon?
Si, bien sûr que oui, et d'ailleurs il sera sur une table ronde pour parler du vol du boomerang, qui est son deuxième roman, Au Diable Vauvert. Je crois qu'il n'a jamais été aussi prolifique que depuis qu'il est chez Le Diable Vauvert. Mm-hmm. Je pense que... j'ai oublié son nom, malheureusement.
Je ne sais pas s'il écrivait quoi.
Quoi donc
la directrice de Diable Vauvert.
Oh bah là, non, on la connaît pas.
Doit lui serrer un peu la vis. Si.
Ah. Si, je la connais. Ah.
On la connaît, elle est très connue, mais là, son nom m'échappe. Je le retrouverai quand j'aurai le droit de nouveau de parler après le début des chroniques.
Ouais. D'ailleurs, t'en as une chronique, Pierre-Marie?
Bah non, moi, tu m'as dit qu'il fallait que je parle de l'association et de l'actualité de l'association, qui est prolifique ces temps-ci. J'ai plein de choses à vous raconter et des rendez-vous à vous donner.
Bon, très bien. Et toi, Jean-Hugues, alors tu vas nous parler de...
Moi, je vais parler un petit peu de cinéma, parce que je suis allé voir des...
Ah bah, c'est bien.
Et puis, j'ai failli vous parler du vol du boomerang, mais
Karine,
Et je vais parler de Patrick Harris et Ceux qui grattent la terre. Et puis enfin, Sherlock Holmes et les démons marins du Sussex, le troisième volet de James Lovegrove, que je n'avais pas lu.
Lui qu'on n'a toujours pas réussi à faire venir à Angers, mais bon...
Ça fera partie de ma chronique
cool.
aussi.
Excellent. Ouais. Bon, allez, une petite musique là, pour commencer l'émission, et puis c'est lié à l'actualité culturelle à Angers aussi, vous allez voir, si vous êtes au courant. Vous avez reconnu d'ailleurs cette BO
MacGyver.
Mais tous les cris là, vous avez écouté en fait.
On était en train de discuter.
Pierre-Marie qui racontait encore sa vie.
Et puis il y avait Karine qui était très stressée à l'idée que ça serait peut-être elle qui allait commencer la chronique. Alors du coup, je la sauve puisque c'est moi qui commence à parler.
C'est Bruce t'inquiète pas, Karine. Lee, c'est Bruce Lee qu'on entendait crier.
Parce que c'était quel film ?
C'était Enter the Dragon. 1972.
C'est celui qu'il a réalisé.
Ouais,
ah, c'est pas celui où il a le costume jaune que lui a piqué Kill Bill après.
Écoute, vous le saurez en allant voir le film. au 400 coups mardi prochain, parce qu'il y a une soirée Bruce Lee en fait au 400 coups dans le cadre comment ça s'appelle, les films de genre là qui passent une fois par mois, je ne sais plus comment ça s'appelle,
on n'est pas obligé de se faire un brainstorming entre nous. Moi j'ai envie de dire que tu as oublié quelque chose et Karine a oublié quelque chose.
Ouais.
Nous sommes l'avant-dernière émission avant le Geekfest, nous avons deux places à faire gagner pour le Geekfest.
Ah, c'est ce soir.
De ce soir et la prochaine émission. Du coup, si quelqu'un a le nom de cette séance de cinéma, qu'il nous appelle.
Bah, j'ai un peu de le dire, mais bon.
Et puis, il y aura le droit à un pass de jour pour le Geekfest à gagner au premier auditeur qui nous appelle.
Eh ben, trouvez-nous le nom, en fait, de ces soirées de l'association qui organise ces séances de films de genre, on va dire, à peu près une fois par mois aux 400 coups. Et donc, la semaine prochaine, soirée Bruce Lee avec La Fureur de Vaincre et La Fureur du Dragon. Et une démonstration du club de karaté Angevin juste avant, dans la salle aussi.
Ah, ça va être trop bien, il va y avoir des heures de sur l'écran, ça va
dans la foule et tout.
Voilà.
Oh, bien. Moi, je veux ça.
Et c'était musique de Lalo Schifrin aussi. Voilà.
OK.
Alors, des nouvelles de l'association Pierre-Marie, Pierre-Nati.
On va la fermer. Non, on est tous épuisés parce que le mois de mars, le mois d'avril et le mois de mai vont être des mois intenses pour nous.
Justement, j'espère qu'on est en forme.
Et du coup, on commence directement avec ce week-end à Trélazé, dimanche, initiation au jeu de rôle avec deux tables rondes qui seront animées respectivement.
Deux tables de jeu. Ouais, deux tables rondes si tu veux. C'est vrai, c'est un peu une table ronde. Bah, table de jeu de rôle.
C'est du théâtre autour d'une table, on peut parler d'une table.
Ouais, c'est vrai.
Mais bon. Donc, à la bibliothèque Hervé Bazin à Trélazé, deux tables animées respectivement par Monsieur Romain Mallet et Monsieur Pierre-Marie Soncarieux. Franchement, quel courage. Aqua Blue pour Romain.
Mais, dis donc.
Oui, le jeu de rôle qui est sorti l'année dernière au studio Dead Crows. Je ferai jouer un scénario qui est paru dans un Casus Belli, à peu près l'année dernière aussi, en même temps que la sortie du jeu. Voilà.
Et moi, ça sera Danger et Durabilité, un jeu de rôle basé sur les prévisions du GIEC pour 2050.
Et là, écrit par un angevin
de l'ADEME, qui est parti loin, et donc c'est pas lui qui le fera jouer, puisqu'il est maintenant en Martinique en mission pour l'ADEME. Et il va pas se taper l'aller-retour juste pour une matinée. Mais par contre, vous aurez le plaisir de jouer à Angers, à Trélazé exactement, selon les prévisions du GIEC en 2050. À quoi va ressembler Angers ?
Il faut s'inscrire quand même peut-être.
C'est sur inscription. Il y a toujours des places qui sont libres pour les retardataires qui arrivent au dernier moment, mais il y a le risque d'arriver et de n'être que spectateur de ces deux tables de jeu, puisqu'il n'y en a que deux.
Et alors moi, Aqua Blue, je dirais à partir de 10 ans, toi, je sais pas. C'est un peu plombant ton truc ou pas ?
Le jeu en tant que tel est facile à prendre en main et facile à comprendre. Il est vraiment destiné à des tout petits, mais pour comprendre vraiment les implications de l'écologie et de l'évolution climatique, c'est vrai qu'une dizaine, quinzaine d'années.
Qui est un peu le thème aussi, on s'inscrit dans le thème peu plus global à la médiathèque.
Ouais, 3 ans, ouais. Recycler son biberon, c'est pas la mentalité, quoi.
Ok.
Après ça.
Ouais.
Donc là, nous serons le 12. Après le 12. Eh bien, il y a le 29, le 30 et 9. Le 31 et le 1er. 1er et 2 avril, je vais y arriver.
1er et 2 avril.
Oh, je vais y arriver.
L'Angers Geek Fest.
L'Angers Geek Festival, ouais. Exactement. Donc, il y a des places à gagner ce soir, à la prochaine émission, dans deux semaines.
Personne n'a compris ma question.
On en poserait une autre, t'inquiète pas, ça sera une question de secours. Et donc, le Geek Fest, où nous aurons le plaisir de tenir un stand comme les deux années précédentes, trois années précédentes, puisqu'on est à la 4e édition. En compagnie de Richer qui nous tournera le dos, oh les salopios, mais qui sont nos partenaires. Nous avons eu 7 auteurs qui seront sur notre stand. On peut citer notamment Étienne Barrier, spécialiste du steampunk, Ariel Kierou, spécialiste de la science-fiction anticipative cybernétique, Karim Berouka, le grand punk du coin quand même, faut pas déconner, Aurélie Wellenstein qui nous a sorti une magnifique BD et qui continue ses prolifiques parutions sur l'anticipation et de la fantasy.
Et donc ces quatre personnes seront en table ronde de 2 le samedi.
Bon, okay, tu me pourris mon effet.
Maintenant je pensais que t'allais oublier.
Bon, quand même. Alors il y a plusieurs événements avec ces deux personnes, mais je continue ma liste puisque là ce sont mes chouchous, mais il y a tes chouchous. On retrouve Tony Emerio et Boris Beuzelin, les co-auteurs de Paria, qui auront leur propre parution et le deuxième tome de Paria, qui est sorti depuis le dernier Angers Geek Fest. Nous aurons Marx,
Wreckers,
qui écrit de la fanfiction Star Wars.
Ouais, c'est entre Star Wars et Dark Heresy.
Parfait. Tu connais du Warhammer. Bah oui, bien sûr, Dark Heresy, il ne faut pas déconner. et puis, Guillaume Albin, le dessinateur du monde du Donjon de Nullbuck, avec notamment un jeu de rôle du Donjon de Nullbuck. Ça fait quand même pas mal de monde. Ils seront tous là sur les deux jours. Et comme tu disais, il y a des tables rondes thématiques qui vous seront proposées, qui seront proposées à l'Anja Geek Festival. Une table ronde qui sera quand la fantasy change les paradigmes de la moralité et de l'éthique, avec notamment Aurélie Wellenstein et Karim Berouka. Ça sera le samedi.
Ça sera enregistré, ça?
Non, ça sera le dimanche. Dimanche à midi, ça.
Dimanche à midi, ça sera enregistré, rediffusé.
On
dimanche
espère.
À midi, avec une interview radio en direct sur Radio G, mais à l'Anja Geek Festival, à 11h.
Ce sera pas diffusé en direct.
Bah, si tu me casses tout, mon effet.
Non, il y aura le studio mobile parce que Radio G est partenaire de l'Anja Geek Fest, mais le studio n'émettra pas en direct sur les ondes.
Bah, ça sera
ce
en
sera
direct.
L'heure de ma chansonnette, si je pense.
Si vous êtes présent, ça sera en direct, et si vous n'êtes pas présent, ça sera en rediffusion.
Ouais, on passera ça plus tard dans nos émissions respectives, et puis on profitera du studio aussi pour inviter, pour interviewer Guillaume Albin aussi, et peut-être Tony Emeriot, Boris Bezin. Et Marc Strickers, voilà. Donc on fera ça plutôt en matinée. Il y a d'autres gens aussi, il y a d'autres invités, mais ça on en parlera peut-être dans notre prochaine émission qui me plaise bien dans la programmation d'Angers Geek Fest, c'est qu'on va peut-être essayer de toper un matin. Et puis, donc le studio sera installé dans l'entrée, le grand couloir en fait qui ouvre le centre des congrès, et donc les gens pourront aussi s'asseoir et nous écouter en même temps.
Deuxième table ronde qui, cette fois-ci, sera le samedi à 13h, j'ai fait dans le mauvais sens, et qui comprendra donc Ariel Kirou et Etienne Barrier sur le thème cyberpunk, steampunk, pourquoi fantasmer le passé et réfléchir à l'avenir pour critiquer le présent.
Ok.
Et pareil, une interview à 11h.
C'est beau.
Eh oui. Ah,
voilà. Une table ronde dans la salle.
Alors, c'est la salle.
Dans une des deux salles.
Rann,
de conférence.
Si je me souviens bien.
Du Parc Expo. Ok, on passe la parole à Karine ou on encore...
Attends, ça dépend. Est-ce que la petite est pas trop stressée?
Déjà, ah, tu
apparemment,
vas arrêter
de m'embêter. Un petit peu. Des choses à annoncer, Pierre-Marie.
Ça serait bien.
J'ai des choses à annoncer, mais ça concerne moins. Imagine, enfin, ce sera, on parlera de ça dans l'agenda en fin d'émission. Allez, Karine, je te mets ton générique. T'as ton casque, là?
Non, j'ai pas mon casque. Donc,
oui.
Laurent Well nous invite dans une épopée humaine et littéraire en nous immergeant dans la vie et les rêves d'un jeune aborigène en Australie nommé Jimmy. C'est un jeune diplômé en tant que docteur en physique des particules et il va inventer une machine pour participer à une célèbre course de voitures propulsée à l'énergie solaire. Et ce, dans le but de sensibiliser le monde à la cause de son peuple. Le vol du boomerang est à la lisière des genres, entre polar et aventure. Ce mélange des genres sert à merveille la quête initiatique de ce jeune homme, affrontant les préjugés et créant un mouvement social. Ainsi, le lecteur est pris à la fois par le rythme du récit, par l'intermédiaire de chapitres courts, ce qui s'apparente à un thriller et donne un bon dynamisme au récit, et à la fois par l'aventure humaine qui est explorée par le biais de ce personnage qu'est Jimmy. Un jeune plein de rêves. Quoi ?
Non, mais pas
on peut te piquer ton livre en douce, quand même.
Ouais. Du coup, je suis perdue. Un jeune plein de rêves qui tend à être porte-parole de son peuple, voulant montrer au monde que son peuple n'est autre qu'un ensemble d'humains qui veulent la paix et la tranquillité. Le contexte de ce récit n'est pas délaissé, puisque Laurent Well décrit avec justesse une réalité post-apo avec d'horribles incendies qui ont fait d'énormes dégâts, obligeant des populations à partir se réfugier dans des camps et éradiquant de nombreux animaux. Par ce biais, il alerte sur une réalité écologique grave et oppressante, dont tout le monde est capable de faire des liens avec ce qui peut nous attendre dans le futur si on ne fait rien. Laurent Well met donc en avant des valeurs de respect et de tolérance face à la différence. Mais il souligne également l'importance de faire attention à notre environnement et notre planète. Par ailleurs, pour construire son roman, Laurent Well s'est documenté notamment sur Billy the Kid et s'est fait aider par des ethnologues ayant vécu des années parmi les aborigènes. Cette documentation et ce travail se sent à la lecture, C'est donc d'autant plus plaisant de se laisser emporter par cette aventure sociale et écologique. Laurent Well est écrivain, nouvelliste et traducteur franco-britannique. Il a écrit une quinzaine de livres dans différents genres littéraires, thrillers, science-fiction, mais c'est avant tout un auteur féru de mélange de ces genres littéraires, ce qu'il réussit avec brio. Il a obtenu plusieurs prix, le prix Merlin en 2005 pour Hélas Elias, paru dans Les Enfants du Silence. Et en 2011, il remporte le prix Rosny Aîné avec Les Pilleurs d'âmes, qui va être réédité par les Montons Électriques le 15 mars. Et je vous invite donc chaleureusement à découvrir sa plume via ce titre-là ou ses précédents, ou la réédition d'ailleurs des Pilleurs d'âmes, si ce n'est pas déjà fait.
Notamment donc au Salon Imaginaire, hein. Comme ça vous aurez une petite dédicace en plus. Et Billy the Kid, bah oui, il avait déjà écrit...
C'était Billy the Kid.
C'était Goodbye Billy, dans
Goodbye Billy, oui.
Sa collection des rats de poussière.
Oui. Ouais. Bah, c'était le premier tome des rats de poussière.
Ouais, tout à fait.
Et on avait fait une table ronde, c'était notre année western d'ailleurs, c'était notre tout année Star Wars, je crois, cette année-là. Très intéressante, où il nous avait raconté plein de choses, notamment sur les cow-boys et tout, et comment ils se tiraient dessus pour de vrai et tout. Enfin, vraiment, effectivement.
Il était magnifiquement déguisé.
Il était magnifiquement déguisé. Ouais. Et moi, ce qui m'avait plus marqué, c'est quand il te racontait qu'en fait, par rapport au film que tu pouvais avoir de western, les gens ne mouraient pas aussi bien pendant cette époque-là, parce que les balles n'avaient pas la puissance de pénétration qu'elles ont maintenant. Et donc, c'était pas rare qu'une fois touché, tu restes agonisé dans le désert pendant des heures et des heures et que tu meurs de soif.
Non, mais normalement, t'étais dans une rue au milieu du.
Hey, moi j'aimais bien quand il me racontait ça avec gestes et bruitage, c'était parfait.
Il imite très très bien.
Ah ouais, le cadavre ambulant, il imite bien.
Alors j'ai beaucoup aimé aussi Le Vol du Boomerang. Ce que j'ai apprécié aussi par rapport à tout ce qu'il a écrit avant, c'est que par exemple par rapport au Rat de poussière, il y a une nervosité d'écriture qui est vraiment très intéressante. Et oui, quand on parle des autochtones, c'est pas encyclopédique, mais par exemple il rencontre un dingo.
Les chiens.
Oui.
Merci.
Et qu'il a blessé accidentellement, il se crée une amitié, c'est quasiment, il se parle, enfin c'est, il y a vraiment des choses tout à fait, c'est vraiment, c'est très humain, c'est peut-être le plus humain de ses romans au travers de cet Arbogen.
Okay.
C'est très très bien.
Et je piquais le livre à Karine parce que je me suis dit, ils se sont pas fait chier pour la couverture, mais non, en fait, c'est un service de presse.
Alors, pour ce qui est de, en fait, c'est de la collection Polar à une charte graphique avec un dos rouge.
Ouais.
Et donc, la couverture est très très proche de ce qu'il avait fait. De
c'est un gecko, je pense, petit lézard.
Alors,
là,
c'est pas un gecko.
Ah bon.
C'est le lézard qui va servir de symbole à sa voiture solaire.
Et donc c'est la même charte graphique que Skeleton Coast où là il y avait
une tête de crocodile ou d'alligator
ou de caïman. Un squelette.
Caïman peut-être. Ouais.
Un truc du genre quoi.
C'est très bien aussi.
Ah oui.
Et Karine, alors t'as un choix musical, on s'est dit ça va plaire à Laurent.
Tout à fait, puisque là je vous ai choisi un morceau tout doux de Didgeridoo.
C'est Julien Védrenne qui nous a dit, je viens de l'interviewer dans mon émission Calibre 58, hein. Sur Radio G, que vous pouvez réécouter. Donc voilà, vous pouvez aller chercher l'interview de Laurent. Et donc, tu nous as choisi un morceau, enfin, c'est un duo didgeridoo handspan.
Oui, voilà.
Et c'est le groupe Dabo, je crois, qu'on s'écoute tout de suite dans Imaginaire sur le 101.5. mot dans l'imaginaire sur le 101.5 avec le morceau Tales of Goa.
Rhabille-toi, Jean-Hugues. Je sais que la transe, c'est compliqué pour toi, mais rhabille-toi.
C'est parce que c'est à cause des peintures. Ça risque de tacher mes fringues.
Bon, un duo donc qui fait des vidéos YouTube en fait. Hein. C'est que du live, je crois. Donc avec un didgeridiste. Et handspaniste ou handspan, vous voyez.
Ah oui, c'est le truc en métal. Je me demandais ce que c'était, mais oui, c'est le truc où tu tapotes dessus et ça fait
du métal. Et
mais alors, je trouve
les chamans, ils ont ces trucs-là aussi.
Non, alors d'ailleurs,
on trouve dans la musique calypso aussi.
Les handspan, c'est une spécialité du coin. Ça a été inventé dans le coin et une des rares manufactures est dans le coin. Oui. On a quand même une culture aborigène dans le coin. C'est assez.
On est comme ça nous.
Bon, c'est l'heure de la chronique de Sébastien. Je te lance ton générique.
Coucou. Alors je vais commencer. Romain, par vous dévoiler.
Parlez dans ton micro.
Voilà, voici. Et vous dévoiler les prix du livre jeu de l'année 2022.
Ah ben oui.
Qui ont été décernés au Festival international des Jeux de Cannes le 24 février. Donc il y a eu un prix en catégorie jeunesse pour une BD jeu Macaca, Chaton et Dragon, les fleurs du dragon. Un prix.
C'est pas un jeu de rôle ça?
Non, pas du tout, mais je t'ai apporté la BD si tu veux regarder.
D'ac, ouais. Ah oui, c'est des BD. Donc
cette manière de lui clouer le bec,
c'est juste quoi. Mais c'est pas un truc, non, tiens, regarde.
Il y a des jeux avec. Si tu peux me laisser tranquille, ça sera encore mieux d'ailleurs.
Ah, il y en a qui amènent les livres qu'ils avaient dit qu'ils ont amené. Ah,
je sens que ma fille va kiffer, en fait, sur la couve.
Et il y a donc le prix en catégorie adolescent-adulte, donc, qui a été décerné pour. Ah bah là, j'ai un trou de mémoire.
Ah bah c'est pas bien.
Et là t'as pas le bouquin, bravo.
En plus tu faisais partie du jury, non?
Oui, en plus.
Bravo. Ah oui, Cyclades. Eh ben, c'était festif. Cyclades,
ça t'a marqué. Donc, hein.
C'est Cyclades qui se déroule pendant la Grèce antique et le jury a tenu aussi à compléter ces deux prix, donc pour la jeunesse, pour l'adolescent adulte, par deux autres prix spéciaux. Un donc pour le lancement d'une série jeunesse, Les Enquêtes Impossibles, pour les deux premiers tomes. Et je vais poser donc peut-être une colle à Jean-Hugues, parce que cette série des Enquêtes Impossibles, figure-toi Jean-Hugues, donc permet de faire équipe, donc pour le héros, avec des célébrités de la littérature policière des 19e et 20e siècles. Mm-hmm. Et le troisième tome qui va sortir dans l'été va se passer dans le New York, du début du 20e siècle. Et d'après toi, quel détective américain avec lequel on va faire équipe?
Début du 20e siècle, hein.
À New York.
New York.
Ça sent le hard boiler, mais.
Bah, c'est
ouais, c'est
tout
le 7e siècle.
C'est plutôt les années 40.
Bah, ouais. Ouais. Edgar Allan Poe.
Non.
Ah, Lovecraft.
Non, c'est un détective.
Un détective. Il a vécu dans les fascicules du carnoplaste.
Harry Dixon.
Voilà. Harry Dixon, oui.
Début du 20e, Harry Dixon?
Oui.
Fin du 19e, début du 20e, oui.
Puisque ça sortait en fascicule, je pense même. C'est surtout Jean Rey qu'on a écrit, mais je suis pas sûr que ce soit lui qui a commencé.
Bah oui, mais
non,
c'est pas lui qui a commencé.
Pour moi, Jean Rey, voilà, c'était beaucoup plus tard.
Par contre, c'était écrit par des Européens, je crois, des Belges ou des Hollandais, mais ça se passe effectivement peut-être à New York.
Le détective américain, Harry Dixon, le détective américain.
Ok. Si c'est dit dans le titre.
Il s'était pris une mandale de la part de Sir Arthur Conan Doyle, ils n'avaient pas le droit d'avoir le Sherlock Holmes, et du coup, ils avaient récupéré le Sherlock Holmes américain.
Il a un sidekick aussi, Harry Dixon.
Tom Wills.
Ah bah c'est peut-être lui qu'on incarne alors dans cette enquête impossible, non?
Peut-être.
On verra. Les enquêtes impossibles, tu en avais déjà parlé. Parce
j'en
que
ai parlé.
Le fantôme du Louvre, par
le
Bertrand
Poulard. Le fantôme du Louvre l'été dernier. Ouais. Et on a un dernier prix, donc.
On a été interviewé d'ailleurs.
Pour le prix pour la meilleure édition d'un livre-jeu classique, Le Tyran du désert, où on incarne Loup solitaire, un des héros majeurs de la littérature interactive jusqu'à aujourd'hui.
C'est vieux ça, non?
Ah bah c'est les ça premiers livres dont vous étiez héros.
Ah oui, d'accord.
Je suis pas sûr que tu aies soigné quand ça sortit.
Je crois que je l'ai fait et tout. Je me rappelle du dessin de l'illustration.
Enfin, Loup solitaire, quand c'est sorti, tout le monde l'a fait.
Du désert, c'était quel numéro ça?
Le 5.
Le tyran du désert.
Le tyran du désert.
Moi, ce que je me souviens surtout de cette série-là, c'est les dessins intérieurs qui étaient des gribouillis. Infâme.
N'importe quoi, c'est Gary Chalk.
Non, c'était le Donjon et Dragon.
Gary Chalk qui a œuvré aussi pour Talisman.
Et justement, d'ailleurs,
il est très beau.
Les couvertures étaient à tomber.
Ah, les couvertures étaient à tomber, mais les dessins intérieurs en gribouillage au crayon de papier.
Mais moi, n'importe quoi.
Il y avait des moments, c'est ah, un canard. Non, c'est un aigle royal. Oh, pardon.
N'importe quoi, Pierre-Marie. Je crois que tu confonds avec un autre truc parce que c'est plutôt.
Je les avais au CDI quand j'étais encore genou. Ouais.
Et c'est au siècle passé. Wasburg, je sais pas comment ça se prononce, aussi jeu de rôle chez les Douze Singes qui est basé sur des dessins de Gary Chalk. Moi, je suis assez fan. Bon, ces personnages sont un peu spéciaux, un peu rondouillards et tout.
Il y a quelqu'un qui a un problème avec les rondouillards ici.
On en reparlera dans ta chronique peut-être tout à l'heure. Ouais. Puisque tu es censé nous parler d'un truc tiré de Roald Dahl, non?
Oui.
Si on fait un petit peu de polémique dans cette émission. Oui, Sébastien, on t'écoute.
Et donc là, je vous ai énuméré les quatre prix. Et on a Gauthier Wendling, figure-toi, qui a concouru au prix du livre Jeu, qui n'a pas été retenu.
Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Présenté comme ça, le pauvre.
Mais il a concouru et là, il va sortir un nouveau livre dont vous êtes le héros au mois d'avril. Autour donc de Minecraft et c'est très original. Et là, je vais encore peut-être coller Jean-Hugues.
Je suis désolé, mais alors franchement, ton accent anglais, il est pire que moi, quoi.
Alors Minecraft, je connais pas Minecraft.
Alors c'est Minecraft.
Mais ta fille peut-être, par contre.
Son livre dont vous êtes le héros, Jean-Hugues, en fait, il s'inspire d'une célèbre série d'enquêtes policières dont on est le héros, écrite par Martin Vadel, aussi connu pour avoir écrit Petit Ours, la bande des quatre.
Alors là,
Petit Ours, la bande des quatre.
En fait, il y a ici Petit Ours et la bande des quatre, c'est sa série d'enquête policière dont vous êtes le héros.
Ah non, je suis désolé.
Sorti à Gallimard.
Et quand ça?
C'est dans des années 80-90.
Mais moi, j'ai dû en faire une petite dizaine de livres dont vous êtes le héros.
Et seulement du fantastique, le polar, ça l'a emmerdé.
Bon, et Gauthier Wendling, qu'on recevra aussi au Salon Imaginaire.
Au Salon Imaginaire, qui pourra vous en parler plus en détail.
Et qui fera une initiation au Escape Box et Escape Book.
Ah, cool.
À la médiathèque Toussaint le dimanche après-midi.
Mais dis donc,
très bien. Ouais,
sur inscription, parce que là, du coup, les places sont en nombre limité.
Ouais.
Battez-vous.
Bon, bah, très bien.
Et là, je vais vous parler d'un coup de cœur tout récent que j'ai eu dans le week-end, au point que je n'ai pas décroché donc, de l'histoire. J'ai lu d'une seule traite. Et ça tombe bien, parce qu'en fait, c'est appelé une nouvelle, et ça figure dans la revue dont vous êtes le héros, Héros 3. Il n'y a eu que 4 numéros, en fait. C'est une revue éphémère. Mais ce qui m'a vraiment interpellé, donc, c'est Bad Time qui ouvre le bal, et c'est une nouvelle. Mais une nouvelle à choix multiples. Et ce qui m'a vraiment plu, c'est déjà la chute. Pour une bonne nouvelle, il faut qu'il y ait une très bonne chute.
T'avais des pansements.
Et quant au destin du héros, en fait, vous allez avoir une surprise à la fin. Également une surprise au début, qui est vraiment surprenant. On a un rebondissement d'entrée, c'est-à-dire qu'on a un inspecteur de police qui doit en fait arrêter un chef mafieux dans sa demeure, sauf qu'il tombe nez à nez avec un individu louche qui étrangle d'une seule main le chef mafieux.
Ah.
Et à partir de là, il va devoir pourchasser cet individu louche qui a tout d'un démon dans les rues pluvieuses de Boston et puis dans les égouts. Alors, chose à noter...
Ça fait penser à Batman, hein.
Lovecraft.
Batman. Oui, alors Jean-Hugues, t'es pas loin de la vérité parce que cet individu, donc très grand, il a ravi, en fait, il a dérobé un grimoire au chef mafieux. Et les égouts, justement, donc pour parler du ludisme, c'est en fait ce qui m'a vraiment surpris, c'est qu'en un nombre très restreint de paragraphes, l'auteur, donc le Gouach Mai, un Breton, il réussit vraiment à faire des égouts comme un mini labyrinthe, un mini enfer. Où on a une créature répugnante qu'on dirait tout droit sortie d'une histoire de Lovecraft. Et Jean-Hugues, tu pourras justement.
Mais on court après quand même, parce qu'on est courageux.
Alors lui, en fait, c'est un gardien. C'est un gardien des égouts.
Un gardien du zoo.
C'est pas l'homme qu'on pourchasse. Et quand même, dans ces égouts, on a quand même le moyen de se régénérer dans une pièce. Parce que si on s'égare un peu de trop, eh bien, Pierre-Marie, on perd en sang-froid et on peut devenir fou. Et à partir de là, l'aventure s'arrête.
Ah, moi, je ne peux pas devenir fou, je le suis déjà.
En tout cas, montre pas le dessin à Pierre-Marie, parce que déjà, il va faire des illustrations de Gary Chalk.
Vu l'illustration, c'est à mi-chemin entre la sangsue, la limace et le monstre.
Non, mais vraiment, je vous recommande. Là, l'auteur, il m'a embarqué dans son histoire. C'est une très bonne nouvelle à choix multiples. Et ça se trouve, donc, cette revue, donc ce numéro, dans les 20 euros. Alors, je ne veux pas trop vous parler de Pierre Hanard.
Alors, c'est une revue qui est encore éditée ou pas ?
Plus du tout.
Ah oui, d'accord. Donc, on le trouve d'occasion.
On le trouve d'occasion.
Il y a eu 4 numéros.
4 numéros.
Et donc, Héros, pour resituer, c'était une revue de nouvelles à choix multiples, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, de nouvelles à choix multiples et d'auteurs français, donc, ouais. Pour pouvoir les lancer. Et vraiment, cet auteur, aujourd'hui, on le retrouve sur Litteraction. Il a une plume efficace. Et moi, qui m'a conquis vraiment d'emblée. Et pour Pierre Hanard, bon, je vais faire très bref. Jean-Hugues semblait connaître. Donc, il n'y a eu que 11 numéros, également un destin éphémère. On ne trouve pas que des aventures dont vous êtes le héros. En fait, il n'y en a eu que 3, ouais. Dont la pierre de Chanara, qui est l'une des meilleures. Et en fait, c'est la traduction d'un auteur en fait, qui a été découvert dans Warlock, Paul Struff, et qui, pour l'anecdote aussi, a été retraduit un peu plus tard pour une autre de ses nouvelles à choix multiples, La Reine des Ombres. Bon, bref, là, c'est un 200 paragraphes. Bon, je voulais faire un peu écho à la 200e
émission.
Eh ben
oui, quand même. Bien.
Et il y a également de très, très, très belles illustrations qui rappellent un peu, pour moi, le jeu de rôle. Et donc, c'est vraiment.
J'adore ces illustrations
une aventure,
qui passent tellement bien à la radio.
Bon, regardez, hein.
En tout cas, moi, je vois qu'il y a une pub pour Talisman et voilà.
En fait, l'aventure qui a été traduite en 86, elle date de 85 en langue anglaise. Et ce qui est bien, c'est que c'est vraiment une aventure vraiment qui se rattache à l'âge d'or des défis fantastiques, ouais. Des tout premiers défis fantastiques.
D'ailleurs, c'est pour ça que cette revue existait, peut-être, non ?
Alors oui,
parce que je vois que c'était publié par Gallimard
en avant,
même.
Et également ouais. Talisman en quatrième
dodo.
Je connais
l'histoire de Pierre Hanard, c'est amusant.
Ah bah vas-y, raconte-la.
Ah bah, dis-nous-en.
Bah si, ouais.
Non, de toute façon, pas obligé.
Et ben en fait, un faux jeu magazine de Jacques Pimpoin
ouais.
Finit par disparaître. Et Gallimard trouve qu'il y a une place pour mettre un magazine de jeux, fait appel à l'équipe d'InfoJeux Magazine pour faire partie de l'équipe rédactionnelle et diriger le taf.
Okay.
Tout se passe très très bien, jusqu'au moment où on dit, bah voilà, on vous présente un rédacteur en chef, et là on leur amène un mec de 18 ans et demi qui commence à discuter avec eux, et qui est en fait le fils de chez
Gallimard.
Voilà,
c'est ce que j'allais dire, c'était exactement.
Et donc
ce que
ils ont fait,
dire.
Bon bah désolé, on a discuté une demi-heure avec lui, ouais, on va pas pouvoir bosser avec lui, salut.
Merde.
Voilà, l'histoire. Ah et bon. Effectivement, ça ah fait, alors que c'est Gallimard qui est derrière, ça fait...
11 numéros.
11 numéros.
Et il y a eu pas mal aussi de numéros consacrés aux jeux de rôle.
Oui, bah oui, parce que c'était vraiment pour reprendre la suite d'InfoJeux Magazine.
Et d'ailleurs, moi, je suis passé à la boîte à livres l'autre jour et je suis tombé sur Le Combattant de l'autoroute, donc un célèbre défi fantastique version originale. Et au milieu, il y a un encart avec une pub pour Piranha, ouais, par hasard.
Et dans le 2 perdu également.
Bah oui, parce qu'ils soutenaient en plus, ils étaient sur la lignée des livres dont vous êtes le héros, donc, qui sortaient chez Folio Junior.
Ouais, c'était un peu leur journal qu'on trouvait dans les kiosques qui permettait de faire la pub pour... voilà. Dans le bouquin. Et alors du coup, tu nous conseilles particulièrement ce numéro.
Alors
en
ce
fait.
Numéro aussi, parce que l'aventure à jouer est tout simplement très bonne. Et c'est comme jouer au labyrinthe de la mort, à la cité des voleurs, le retour, enfin le marais aux scorpions. C'est vraiment des très bons défis fantastiques et cette aventure également leur rend bien hommage.
Ok,
et,
super.
Intéressant, en occasion, ça tourne dans les 20 euros.
Ouais, quand même.
Donc, c'est
comme
accessible
l'autre.
Comme celui-ci.
Ok. Mais un petit peu pour les collectionneurs quand même.
Un peu pour les collectionneurs, mais pour vous démontrer qu'on peut avoir donc des aventures qui passent bien dans le support un peu de la revue. D'ailleurs, on voit qu'au niveau de la mise en page, on a davantage d'illustrations en haut, en bas, au milieu, et c'est une immersion qui est complètement différente. Et j'aime bien.
Est-ce qu'on trouve aujourd'hui, il y a encore des revues comme ça qui...
Tout à fait, et je peux te parler du magazine édité par mon ami Indigo de livrejeux.fr, donc livrejeux magazine, et qui est téléchargeable gratuitement, amis auditeurs, donc du 101.5, donc à sa demande, et vous l'avez par email, et vous pouvez jouer à des jeux, dont un de Valérie Cluzel d'ailleurs, je tiens à le signaler, et à une petite aventure dont vous êtes le héros également.
Ok, donc ça, par contre, ça n'existe qu'en PDF.
Ça existe qu'en PDF, mais on peut l'avoir aussi en papier, mais c'est moins cher en PDF.
Sinon, il y a le marteau et l'enclume dont tu parles de temps en temps, mais eux qui ne font que des articles, je crois, en fait.
C'est surtout des analyses, comme il a écrit d'ailleurs Woody Evendling sur des grandes séries de livres dont vous êtes le héros.
Ok. Voilà. Bon, eh ben merci Sébastien, on se dépêche parce que on va quand même faut que Jean-Hugues nous fasse une chronique. Et alors par contre, ton choix musical là, on reste vraiment dans les années 80.
Voilà, je vais vous laisser avec Les Confidences de Tanguy pour Amour Combat.
Ton imaginaire.
Oui, je galère beaucoup. C'est le dur boulot des présidents.
Tanguy aussi a galéré, hein, après ce morceau, faire un deuxième single. Et en fait, ce truc est complètement culte. Sébastien, où est-ce que tu as été chercher ça, quoi?
Sur YouTube.
Oui, d'accord.
Voilà, sur YouTube. Et puis, bah, j'aime bien les pépites musicales un peu méconnues.
Pépites.
Mais bon, elle est jolie aussi. Donc.
C'était de la pop belge, enfin synth pop. Ouais. Même certains disent que c'est un gros tube d'Italo disco. Bon, sauf que ça a été fait par des Belges, mais. On tombe vite sur YouTube sur un petit documentaire d'époque qui montre en fait son frère qui était son manager, parce que là elle était encore au lycée là, hein, et il l'a fait répéter dans le salon ses chorés et tout, enfin je sais pas, c'est assez mignon, quoi. Bon, il y a plein de gens qui trouvent que ce morceau est génial et que elle aurait dû en faire plus, mais bon. Et le mec avoue quand même qu'il a essayé de faire un mélange entre Stéphanie de Monaco et Jeannas. Effectivement, ça s'entend, mais moi aussi j'aime bien ce morceau. Bon, c'est l'heure de la chronique de Jean-Hugues.
C'est pas vrai.
Allez, je te mets en générique.
Okay.
C'est ça. Ouais, c'est ça.
On reste dans les années 80. Hein.
Oui. Allez, c'est l'âge. Non, mais tu vas nous parler de trucs du 21e siècle quand même.
C'est un poulpe. Calamar.
Ah non.
C'est un calamar. Chers auditeurs, chers condisciples chroniqueurs, ma chérie, bonsoir. Alors, j'ai regardé des trucs, quelques films. Alors, un truc, j'aurais jamais cru, Wakanda Forever. Alors, j'y suis allé à reculons, parce que d'abord, T'Challa, il est malade. Alors, le pauvre. Mais il y a Angela Bassett. Bah si, la flic dans 911, qui m'avait beaucoup impressionné. Et j'ai pas été déçu. Bon, c'est pas le meilleur film de super-héros que j'ai vu, mais c'est plutôt bien foutu, et vous avez le droit de le voir. Alors, dans la même série des trucs mignons, j'ai vu aussi Vesper Chronicles, un truc de dystopie écologique. J'ai vu Le Visiteur du Futur, où il y a un monsieur qui vient prévenir de l'imminence d'une catastrophe nucléaire qui est liée à la négligence capitalistique d'un monsieur. Mais quelle surprise! J'ai vu Le Maigret de Depardieu. Bon, faut pas crier au génie, mais c'est plutôt pas mal foutu. Et puis, c'est un petit peu un Maigret de Depardieu. Hein, mais il s'en sort plutôt pas. Et puis j'ai vu des films vraiment sympas. Alors j'ai vu un truc amusant qui s'appelle Onion Island. C'est la suite de Hakuto Tiré.
Ouais. Oui.
C'est super.
Ça, j'ai passé un très bon moment avec Hakuto Tiré, avec celui-là aussi. En plus, il y a un très beau méchant, genre Bezos ou Musk, entouré de ses parasites et tout. C'est très très sympa.
Mais ça, c'est que sur Netflix, je crois, il me semble.
Oui,
Netflix.
Ouais.
C'est, et puis, c'est le monsieur qui joue James Bond, je me souviens plus son nom.
Daniel Craig.
Voilà.
Mais Hakuto Tiré reste au-dessus.
Oui, c'est vrai. Ah. Je suis d'accord. J'ai vu aussi Là où chantent les écrevisses. Alors ça, on va dire que ça frôle le thriller. C'est une jeune fille qui vit avec un père brutal dans une cabane pourrie perdue dans le bayou de Louisiane. La maman s'est cassée, machin et tout. Et le père, c'est, il sert à rien. Et alors c'est vrai que dès qu'il y a Louisiane dans un bouquin ou dans un film, je suis fan, c'est vrai, ne me demandez surtout pas pourquoi, j'ai jamais mis les pieds et ma charmante n'a pas du tout envie d'y aller. Alors c'est
moi je vais bien y aller avec toi.
Ah, c'est lui le ma chérie du début. Ah,
ma chérie, si tu les écoutes.
Alors c'est peut-être mon amour des écrevisses, j'en sais rien, toujours est-il que le film est vraiment bien, superbement interprété, et le twist final, c'est vraiment magique, quoi. Mais le vrai coup de cœur, c'est Mathilda, la comédie musicale, et je peux vous dire que vraiment, je m'y attendais pas. Alors, c'est inspiré par l'œuvre du méchant Roald Dahl.
Mais ça, on est en train de le réécrire, donc il devient gentil.
Ouais. Alors, en France, il restera méchant, bon, tant pis. Alors, la première minute, c'est un véritable cauchemar. Avec des gens habillés de trucs colorés, pétards, en train de danser et chanter sur un fond jaune fluo.
Mais c'est une comédie musicale.
Ouais. Alors, il faut tenir. Bon, encore 10 minutes et normalement vous devriez être emporté par ce film magique. Alors l'histoire, c'est une jeune fille, décidément, dont les parents n'ont rien envié à l'oncle et à la tante de Harry Potter, qui a été écrit 10 ans plus tard, et qui est envoyée en potion dans un collège dirigé par une main de fer, par Mademoiselle de Gourdin, qui est interprétée par Emma Thompson, qui est méconnaissable. Vous savez, c'est la Sibylle Trelawney d'Harry Potter, la prof de divination.
Qui était aussi méconnaissable, d'ailleurs.
Absolument. Alors, pourquoi je ferai une chronique là-dessus, parce qu'on n'a rien à foutre normalement des comédies musicales. Bah, c'est que Mademoiselle Verdebois, qui est l'héroïne du film, possède un don.
Oh non.
Et ça, c'est complètement paranormal, donc j'ai le droit de le dire. C'est un film magique que je vous recommande en VO sous-titré.
Ben ouais.
Et d'ailleurs, suite à ma chronique, il y aura
une chanson.
Alors, bon, j'ai parlé des excellentes séries que j'ai vues dans ma prochaine chronique, sinon je vais me faire gronder, et j'ai donc lu des romans. Bon, le vol du boomerang, mais j'ai pas été le seul. Et puis j'ai lu Ceux qui grattent la terre de chez Selma de Patrick Harris, dont le vrai nom est Thomas Bodurek, qu'on connaît très bien, à qui je rends hommage dans le dernier numéro de La Tête en Noir, que vous trouverez sur le site d'Imaginaire.
Et aussi dans certains points de dépôt à Angers.
Oui, bah alors, peut-être et dans certains points de dépôt à Angers et à Ingrandes-sur-Loire.
Un phénomène J.
Alors Thomas fait partie du célèbre club des écrivains maudits, au même titre que, par exemple, Brice Tarvel, Robert Darvel, doté d'une plume incontestable, mais rangé au fond des librairies afin de laisser les têtes de gondole à des Nabila et autres produits superbement marketés, mais sans grand intérêt. Est-ce que Hanouna va écrire un livre? C'est le suspense. Bref, Ceux qui grattent la terre, c'est un hommage à Serge Brussolo. C'est un thriller rondement mené, doté du fameux twist brusselien en milieu de roman, qui transforme radicalement le récit. L'héroïne est dans une situation que connaissent beaucoup de personnes de nos jours, sans emploi et en galère. La situation se débloque quand elle répond à une annonce d'emploi comme secrétaire d'un auteur d'ésotérisme à succès.
Oh putain, pardon.
Ouais. Logée, nourrie, alors c'est un travail de secrétaire classique, et elle a une liberté qui est bien sympa. Tout se déroule bien jusqu'au meurtre de la concierge du bel immeuble haussmannien où réside tout ce beau monde, dont notre fameuse secrétaire est un témoin somnambulique. Alors, vous avez tout compris? Eh ben, détrompez-vous. On ne peut pas deviner la fin. Je vous laisse découvrir la chronique dans le plus vieux fanzine français du noir. Et puis, j'ai lu Sherlock Holmes et les démons marins du Sussex de James Lovegrove chez Bragelonne, troisième et dernier opus des aventures de Sherlock Holmes, les dossiers Cthulhu. Alors, pour rappel, malgré sa mollesse, j'avais beaucoup aimé le premier volume, Les Ombres de Shadwell, qui posait le canon modifié. Donc, c'était intéressant parce que, on savait pourquoi Sherlock Holmes avait rencontré Watson, et que c'était pas du tout l'histoire qu'on connaissait, racontée par Conan Doyle. J'avais adoré le second volume, Les monstruosités du Miskatonic, et je me jetais sur le troisième avec appétit, et j'en suis ressorti bien déconfit. Ouais, c'est mieux d'arrêter là. Alors, les intrigues sont prévisibles, et c'est mollasse encore. Tyrannosaurus Imperium m'a demandé, menacé plutôt, de ne pas trop en dire, car il retourne à la chronique, et vous devriez voir cela bientôt sur le site d'Imaginaire. Et que l'on ne me dise pas que je suis de mauvaise foi, parce qu'elle m'a... Que l'on ne me dise pas que je suis de mauvaise foi, parce qu'après m'avoir promis sa présence à Imaginaire, James a annulé par un simple mail. Hein. Je suis pas du tout comme ça.
Quand même.
J'ai lu d'autres choses, mais Romain ne cesse de m'envoyer des projectiles d'hiver. Je vous retrouve bientôt.
Ne lance pas la musique, parce que je vais faire un add-on à sa chronique. Et moi, je vais parler d'un film que j'ai vu sur Netflix et que je vous recommande chaudement, qui est un thriller avec Christian Bale, et oui, monsieur, et Harry Melling. Si le nom vous dit rien, c'est le cousin de Harry Potter, le cousin d'Udley. Ce film s'appelle The Pale Blue Eye. C'est un film qui est tiré d'un roman éponyme, du coup, et qui se passe en 1830 à West Point, où un enquêteur, Augustus Landor, est appelé pour enquêter sur une série de meurtres à consonance satanique.
Ça t'embête pas si on écoute ma musique?
Non, pas du tout. Ah. Il sera donc aidé par un jeune homme que tout le monde connaît, Edgar Allan Poe. Je vous laisse sur ça, je vous recommande d'aller voir ça. Ça a un petit côté des Rivières Pourpres. L'eugénisme en moins.
Allez, on s'écoute un extrait donc de la comédie musicale Mathilda.
Never again will she get the best of me. Never again will she take away my freedom. And we won't forget the day we fought for the right to be a little bit naughty. Never again will I doubt it when my mommy says I'm a miracle. Revolting children living in revolting times. We sing revolting songs, using revolting rights. We'll be revolting children till our revolting's done. And we'll have the chance for bolting. We're revolting.
Bah, c'était la première fois, je crois, qu'on passe des musiques, des comédies musicales dans cette émission.
Si tu veux, je t'en ferai une.
Non, c'est vrai que Bess nous mettait un petit peu de Disney de temps en temps maintenant.
Oui, mais alors c'est pas une comédie musicale, c'est du Disney, c'est un genre à part.
Ouais, je sais pas.
Libérer des livres.
Merci Pierre-Marie. Il y a des émissions qui suivent là, qui sont prêtes.
Les justement, je prépare les auditeurs et les oreilles de nos auditeurs pour la voix suave de Sébastien.
Ok. Bon, l'agenda, vous avez des trucs à annoncer?
Et bah du coup, ce week-end, le dimanche, à la médiathèque Hervé Bazin.
C'est à 10h du mat.
À 10h du matin, 10h midi. Mmh. Le vendredi soir, à la place Saint-Bac, dans le magnifique bar dont j'ai oublié le nom.
Francis Carpentier. Opus.
Exactement. Allez, Opus, place Saint-Bac. Francis Carpentier et surtout son club de poètes fera une intervention pour les poètes.
Ils ont appelé ça sonner de contrebande.
Le printemps des poètes.
Sur le thème de la frontière cette année. Ouh,
mais c'est autour de son recueil. Douane. Voilà, je voulais dire que. Ah oui, c'est le broc-jeu de sortilège aussi, samedi, pour ceux que ça intéresse. Et ben, hop, allez, on a quelques secondes. On va aussi terminer, juste écouter un petit extrait de l'album de Gorgeous, groupe de hard rock où les mecs ont les cheveux longs et bouclés.
Samedi soir, il y a années 80. Concert métal au Colisée, si jamais vous
et
êtes
ben
chaud.
Non, justement, c'est ça, et c'est vendredi, Pierre-Marie. Voilà,
c'est samedi.
Non, c'est samedi.
Oui. Ah,
bon, c'est samedi. Eh ben, merci d'être là pour le dire. Bon, allez, on s'écoute un extrait de leur album.
Par contre, il y a concert de jazz vendredi soir, si tu veux, à l'Hôtel Saint-Julien.
Allez, restez à l'écoute du 101.5, les voix du Scénarium dans quelques minutes. Le morceau s'appelle Goodbye Yesterday.
Goodbye.
Goodbye.
Bientôt.
Bye.
Non, mais aujourd'hui, je vais descendre.
Et on se retrouve quand même dans deux semaines dans l'imaginaire. Alors, on aura toujours peut-être des places à gagner.
On aura des places à gagner.
Et on fera une émission spéciale en Geek Fest.
Oh, ciao. Yeah. My being.